Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien en cette dernière journée de la semaine. Marianne Paquette au micro, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. En deuxième partie d'émission, je discute avec la docteure Dominique Tessier, elle directrice médicale et fondatrice de la clinique Santé Voyage du Vieux-Montréal, parce que vous savez, en cette période hivernale là, qui débute, et notamment en novembre-décembre, les Canadiens voyagent beaucoup et surtout dans le sud. Mais saviez-vous qu'il y a près de 70 % des voyageurs qui sont interrompus par la diarrhée du voyageur? Donc, elle sera là pour nous parler de cette maladie-là qu'on peut attraper quand on voyage dans le sud, mais également comment la traiter et surtout comment la prévenir. Mais d'abord, je vous pose cette question. Est-ce que vous mangeriez des cuillères de soupe, des cuillères de sucre, oui, des cuillères à soupe ou à thé, comme vous voulez, de sucre? Alors pourquoi vous les buvez? C'est une question qui est lancée par une campagne de sensibilisation sucre liquide, pas tous les jours. Et c'est la Coalition québécoise sur la problématique du poids qui est derrière cette campagne. Et bien sûr, Corinne Voyer, elle qui est la directrice de cette coalition poids, je lui parle dans quelques instants. Bonjour Corinne Voyer.
Bonjour, bon après-midi.
À vous aussi. Donc, c'est devant l'ampleur des problèmes associés à la surconsommation de boissons sucrées au Québec que vous avez lancé cette campagne de sensibilisation sucre liquide, pas tous les jours, mais aussi c'est devant l'absence d'intervention des instances gouvernementales que vous avez eu envie de vous lancer dans cette action-là.
Oui, effectivement. En fait, on fait face à un problème social très important. Et je pense que la population n'est pas suffisamment au fait que la boisson sucrée est aujourd'hui un peu le tabac, le nouveau tabac. On en consomme énormément à tous les jours. Ça se présente sur différents formats, différents emballages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les boissons sucrées, c'est pas comme manger. Mm-hmm. Ça se métabolise pas de la même façon dans le corps. Et indépendamment du poids, c'est mauvais pour tout le monde. Et si vous voulez des exemples de ce que c'est une boisson sucrée, ben on parle de boissons énergisantes, boissons pour sportifs, les thés glacés, les boissons gazeuses, les cocktails. Bref, c'est toutes les formes d'eau avec sucre ajouté.
Oui, des fois, ça a un petit côté pernicieux parce qu'on associe ces boissons-là à des boissons santé. Je pense à des boissons vitaminées ou les boissons pour sportifs, là, comme vous disiez, que l'on prend justement après une performance sportive ou pour se donner de l'énergie, justement. Mais derrière ça, il y a quand même un risque pour notre santé.
Bien, à titre d'exemple, là, une eau vitaminée contient jusqu'à 8 cuillères à thé de sucre. Et si on veut le comparer avec un soda normal, là, une canne ordinaire en contient 10 cuillères à thé. Donc, c'est beaucoup. Et faut garder en tête que la boisson sucrée, c'est associé à l'obésité, au diabète, à la carie dentaire, puis à d'autres maladies chroniques. Là, on commence à documenter aussi certaines maladies cardiovasculaires. Donc, c'est un produit qui est néfaste si on le consomme à tous les jours.
Mm-hmm. Corinne Voyer, justement, là, vous venez d'énumérer toutes les problématiques qui peuvent être liées à la consommation de boissons sucrées. Est-ce que les dentistes, par exemple, ou les médecins vous appuient dans cette campagne-là?
Bien, absolument. En fait, les dentistes, pour eux, c'est une énorme préoccupation. Ils le voient très bien en clinique. Puis il y a quelques mois de ça, il y a un dentiste qui voulait même intenter un recours collectif parce qu'il trouvait ça insensé de voir le nombre de jeunes et parce qu'il y a la carie dentaire, mais l'acidité de ces boissons-là détruit aussi toutes les mailles des dents. Ce qui fait que là, c'est plus réparable. On se retrouve avec un problème où on est obligé d'arracher les dents. Alors qu'on avait une époque où on arrachait ça pour l'esthétique, mais là, on est rendu dans un problème où c'est parce qu'on n'a pas d'autre solution. Puis du point de vue médical, c'est certain que tous les cliniciens vont être derrière le fait que c'est un produit qui ne doit pas être consommé tous les jours.
Mm-hmm.
On n'est pas dans l'interdiction absolue, on est juste dans lui redonner une place occasionnelle, comme on voyait avant.
Oui, festive même. Oui, oui. C'est quoi la quantité de sucre que l'on devrait consommer quotidiennement? Je sais que c'est difficile, bon, à vraiment mettre un chiffre à côté d'une quantité, mais grosso modo.
En fait, ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est que c'est le moins souvent possible.
OK.
Fait qu'idéalement, là, si on peut remplacer la boisson sucrée par de l'eau, ça devient la meilleure alternative. Puis notre eau, on peut l'aromatiser avec des fruits comme des fraises, des ananas. On peut même s'amuser à mettre des épices, des concombres. Si vous êtes intéressé par des alternatives sur le site que la coalition a lancé, qui est sucreliquide.com,
oui.
Il y a une page complète sur les initiatives, les alternatives intéressantes pour nous aider à se désensibiliser du sucre, si vous voulez. C'est possible.
Oui. Le moins souvent possible, mais encore là, j'imagine que ça dépend quelle est la source. Si on mange des fruits, c'est différent que de boire une boisson gazeuse.
Tout à fait. Dans le fruit, il y a des fibres. Moindrement, en fait, n'importe quel, c'est ça. Le problème avec la boisson sucrée, c'est qu'il n'y a pas de fibres. C'est une combinaison de fructose et glucose. Là, on rentre dans des concepts complexes, mais ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est que cette combinaison-là, quand elle rentre dans notre organisme, elle rentre tellement rapidement que c'est tout le foie qui se retrouve avec cette surcharge-là, si on veut, puis ça le transforme en foie gras.
Wow,
et on se retrouve avec une graisse, un gras qui n'est pas nécessairement de l'obésité ou de l'embonpoint, mais autour de nos organes.
Mm-hmm.
Et ça, c'est encore plus dommageable pour la santé. Et ce qu'on se rend compte, c'est oui, il y a des personnes qui vont développer une surcharge pondérale en la consommation de ces boissons-là. Il y en a qui ne vont pas nécessairement développer de l'obésité, mais qui vont avoir une aussi mauvaise santé, puis elle ne sera pas visible.
Et aussi, ça ne comble pas l'appétit, c'est-à-dire qu'on a faim encore là, après avoir bu une boisson sucrée.
C'est ça, la boisson sucrée, elle ne rassasie pas.
Ouais.
Ce sont des calories qui s'ajoutent en plus à notre repas. Alors que si vous prenez l'exemple, là, vous avez votre repas traditionnel, puis vous l'accompagnez d'eau, bien, vous pouvez aussi bien l'accompagner de la boisson sucrée, puis vous ne vous rendrez pas compte des calories que vous ingérez en surplus,
mm-hmm.
parce que ça ne vient pas envoyer le signal que ben, j'ai mangé assez. Donc, ce sont des calories qu'on va dire superflues, qui sont inutiles dans l'alimentation. C'est pour ça qu'il faut les consommer avec prudence.
Vous faites tout de même une petite exception, Corinne Voyer, pour les breuvages laitiers aromatisés, je pense.
Oui, en fait, oui et non.
Mm-hmm.
La différence entre le breuvage laitier, c'est qu'il y a des nutriments qu'on va trouver qui sont plus nécessaires à l'alimentation. Mais encore une fois, le lait au chocolat, par exemple, ça ne doit pas être consommé à tous les jours parce que la quantité de sucre qui s'y trouve est assez significative et importante. Donc, un lait au chocolat, une fois de temps en temps,
oui.
Mais pas tous les jours non plus. Vous pouvez vous-même, en fait, moi, je recommande que vous le fassiez vous-même à la maison. Vous risquez d'avoir une meilleure qualité de lait chocolaté, si vous voulez,
oui.
Parce que vous allez vous-même contrôler la quantité de sucre. Et puis, ce qu'on retrouve sur le marché maintenant, c'est des quantités de sucre qui sont assez impressionnantes.
Est-ce qu'il y a des propositions de recettes aussi pour les laits aromatisés sur sucreliquide.com?
Oui, vous allez trouver ça également. On parle de mélanger du lait, cacao, de sucrer un petit peu. Ça peut être avec de l'ajout de cannelle. Il y a plein de façons là, de rendre ça le fun. L'industrie nous vend des boissons pour nous montrer ça comme si c'était essentiel à notre quotidien et qui fait du bonheur en bouteille.
Oui.
Mais c'est pas vrai que c'est du bonheur en bouteille quand on se ramasse avec un diabète de type 2, puis des amputations, puis d'autres problèmes de santé.
Mm-hmm. Justement, parlons-en de tout ce volet marketing-là autour de ces breuvages-là. Il y a quelque chose de très intéressant sur le microsite sucreliquide.com, c'est qu'on tente un petit peu d'expliquer tout ce qu'il y a autour de la vente de ces produits-là pour un peu sensibiliser le consommateur au piège.
Oui, bien, en fait, l'industrie du marketing des boissons sucrées est extrêmement sophistiquée et agressive. On retrouve plus facilement des boissons sucrées que de l'eau. Promenez-vous dans votre ville, là, trouvez-vous de l'eau. C'est beaucoup plus difficile que de trouver une boisson sucrée.
Mm-hmm.
Ils font des associations avec des athlètes, des vedettes, des bonhommes.
Mm-hmm.
C'est un marketing qui se retrouve dans tout l'espace public, notamment à la ronde de cet été. On a porté plainte parce que Coca-Cola a fait une zone Fanta, qui est une boisson sucrée, genre de boisson gazeuse avec une genre d'orange croche, si vous voulez. Puis, ils ont peinturé l'espace orange comme la boisson. Ils ont mis des petits bonhommes à la hauteur des enfants avec la boisson à la main. Et au Québec, il faut savoir qu'on a une loi qui empêche la publicité destinée aux enfants.
Oui, c'est
vrai. Et pour nous, ça, c'est une publicité directe qui est faite. Alors, on a porté plainte et on attend le jugement. Mais c'est tout le temps, promenez-vous à l'épicerie, c'est présent partout, les présentoirs à l'entrée, une rangée complète, c'est omniprésent.
Oui, et ça s'adresse, comme vous le disiez, dans le camp de la Ronde cet été, beaucoup aux jeunes, je pense notamment aux adolescents, pour qui ces boissons-là sont très accessibles et synonymes parfois de performance.
Oui, ben ils vont chercher plein de cibles, plein de clientèles différentes. Maintenant, la boisson sucrée, c'est pas juste une sorte. Les boissons énergentes vont chercher l'adolescent un petit peu plus âgé à la recherche de sensations fortes. Ils ont essayé de redorer l'image de la boisson gazeuse auprès des jeunes plus début secondaire, si on veut. Mm-hmm. Les stratégies de marketing qui sont déployées pour accrocher les jeunes sont extrêmement puissantes. Puis on le voit bien, un adolescent moyen va consommer environ un demi-litre de boissons sucrées par jour. C'est énorme, là.
Oui, et puis c'est hyper bien illustré tout ça sur le micro-site, encore une fois, parce qu'il y a des vidéos qui sont présentées et à un moment donné, on voit carrément un adolescent qui boit du sucre au verre, là, même. Là. Est-ce que cette campagne-là de sensibilisation vise principalement les adolescents, Corinne?
On essaie de viser un peu toute la population générale parce que, oui, l'adolescent est un très grand consommateur et c'est le plus important, mais on le remarque aussi à l'enfance, on le remarque auprès des adultes parce que l'industrie a réussi à trouver le produit pour chaque tranche d'âge. Donc, c'est un problème qui touche toutes les générations. Mm-hmm. Mais évidemment, on veut prévenir celles qui sont en devenir, les plus jeunes,
oui.
Parce qu'un diabète de type 2 à 11 ans, c'est pas normal. Mm. Puis là, on en remarque de plus en plus.
De plus en plus. C'est une campagne qui va s'étendre jusqu'à l'été 2015. Quelles sont les actions concrètes que vous voulez poser?
Bien là, présentement, on a essayé de lancer une vidéo à chaque semaine. Il y en a un nouveau là, qui a été lancé dans... puis qui s'adresse plus aux jeunes d'âge primaire. On a un prochain qui sera lancé la semaine prochaine. Sur notre page Facebook, qui est aussi Sucre Liquide, là, on va faire un calendrier de l'Avent avec
ouais.
des idées d'alternatives. Il y aura aussi un concours qui seront à venir. Il va y avoir des surprises là à suivre. L'idée, c'est de venir faire cette partie d'éducation là qui n'est pas faite présentement par le gouvernement. Puis on espère aussi qu'ils prennent des mesures un peu plus musclées du type d'avoir une taxe sur ces produits-là qui
ouais.
viendrait contrer certains efforts de marketing.
Mais à ce moment-là, et je m'avance dans cette question-là, Corinne Boyer, est-ce que ça pourrait devenir compliqué de taxer ces produits-là? Parce que, est-ce que, bon, on peut regarder le jus, par exemple. Ah, le jus contient tant de quantité de sucre, donc il entre dans la catégorie breuvage sucré. Comment on pourrait arriver à faire ça, à s'entendre là, pour arriver à taxer ces produits-là?
En fait, on s'inspire de ce qui a été fait en France et au Mexique. Tous les deux ont réussi à instaurer cette mécanique de taxation et les sommes qu'ils retirent sont réinvesties en prévention pour une stratégie plus globale.
Ah oui, OK.
Oui. Dans la définition du produit de boisson sucrée, nous, ce qu'on demande, c'est la même chose qu'en France, c'est tout taux avec sucre ajouté. Mm-hmm. Et donc, là, la portion jus n'est pas incluse à ce stade-ci.
Mm-hmm.
Pour l'instant, ce que nous, on observe comme problématique, ça se passe surtout autour du halo santé de certaines boissons aussi, comme les eaux vitaminées, là, qui disent que
ouais.
c'est bon pour votre santé, mais c'est surtout rempli plein de sucre. Donc, on cible ces produits-là qui sont clairement identifiés par la science comme étant nuisibles. La science est là. Et en restant sur ce terrain de jeu-là, on vient cibler un produit qu'on sait qui pourrait contribuer à une meilleure santé.
Oui. Et parlant de cible, j'ai l'impression que les parents en sont une bonne pour justement arriver à inculquer de saines habitudes de consommation à leurs enfants et également, bien sûr, ces enfants-là, ces ados-là. Est-ce que vous prévoyez des tournées dans les écoles, notamment?
La coalition compte plutôt sur ses partenaires pour répandre cette forme d'éducation-là auprès de différents publics. Mm-hmm. C'est certain que tout acteur a un rôle à jouer. Les parents, les enfants eux-mêmes peuvent aussi recevoir une certaine information. Mais nous, notre rôle actuellement, c'est de dire au gouvernement qu'il doit prendre part à la problématique sociale auquel on vit. Et comme la coalition représente 300 partenaires, il y a déjà des programmes qui sont déclinés, notamment par la Fondation des maladies du cœur. Ils ont mis sur place un programme Sois futé, bois santé, qui vise justement à venir, c'est un programme scolaire pour venir éduquer les jeunes au niveau plus du primaire. Au niveau secondaire, il y a le réseau du sport étudiant du Québec qui a déjà fait des concours pour éduquer les jeunes au niveau du marketing, comment l'industrie essayait de les manipuler. Donc, il y a des efforts qui sont faits par nos partenaires sur le terrain. Il n'y a pas eu encore de campagne sociale large. Donc, celle-là, on espère que le gouvernement puisse y mettre du sien puis mettre aussi d'autres mesures là, avec ça.
Et pour le moment, et jusqu'à l'été 2015, la campagne baptisée « Sucre liquide, pas tous les jours » se poursuit. Ça se décline sur le site Internet sucreliquide.com, également sur les réseaux sociaux. On y retrouve des capsules vidéo et des trucs aussi, hein, comme on le disait, pour s'hydrater plus sainement en réinventant l'eau, hein, ce breuvage-là qui parfois semble peut-être un petit peu plus plate, mais il y a plein de façons de l'apprêter pour que ça soit délicieux. Corinne Voyer, vous êtes la directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Merci beaucoup. Bonne chance dans cette quête et cette campagne.
Bien, je vous remercie. Puis du sucre liquide, pas tous les jours. Il faut le retenir.
On le retient. Merci.
Bonne fin de journée. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Dominique Tessier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice médicale et fondatrice de la clinique Santé Voyage du Vieux-Montréal. Et vous êtes là pour nous outiller un petit peu en ce qui a trait à la diarrhée du voyageur. Je le disais tout à l'heure, en novembre, décembre, les Canadiens voyagent énormément. Et bien, c'est sûr que les destinations où l'on retrouve le soleil, la mer, le sable, bien, elles ont la cote, ces destinations-là. Mais il y a quand même 70 % des voyageurs qui vont être atteints pendant leurs vacances de la diarrhée du voyageur. Peut-être que si c'est si fréquent, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas les outils, là. On ne connaît pas assez bien cette maladie-là. Vous êtes là pour nous en parler. C'est quoi la diarrhée du voyageur?
La diarrhée du voyageur, en fait, c'est une augmentation de la diarrhée, des malaises qu'on a pendant un voyage. Il y a plusieurs définitions, mais la plus commune, c'est de doubler le nombre de selles par jour, accompagné en plus d'au moins un des symptômes comme des nausées, des vomissements, des crampes ou parfois de la fièvre. Ça peut être beaucoup plus violent que simplement le double des habitudes. Ça peut aller à 5-6 selles liquides par heure dans certains cas.
Et c'est douloureux.
Et c'est douloureux dans la majorité des cas.
Est-ce que c'est contagieux?
C'est contagieux, c'est un mode fécal-oral qu'on appelle, donc quand on se lave pas suffisamment bien les mains, on peut contaminer les proches en les touchant, on peut contaminer les aliments qu'on prépare soi-même pour nos proches, donc même au retour, on peut contaminer les membres de notre famille.
Ça s'attrape de quelle façon?
Ça s'attrape en général en consommant de l'eau et des aliments qui ont été contaminés, et ils sont contaminés par des sels. Alors, soit que c'est l'eau des égouts qui est mélangée avec l'eau potable dans les pays en voie de développement où on n'a pas de bon système d'aqueduc, c'est ce qui va se produire, ou quelqu'un qui est malade, qui n'a pas suffisamment bien lavé ses mains avant d'aller après ça préparer des aliments.
C'est une bactérie qu'on retrouve dans l'eau, dans ces aliments-là?
Dans 80-90% des cas, ce sera une ou plusieurs bactéries. Le E. coli entérotoxinogène, le ETEC ou le E. coli que les gens connaissent, est très, très, très commun dans les destinations soleil. Mais on retrouve aussi toutes sortes d'autres bactéries, salmonelles, shigelles, campylobactères. On retrouve certains parasites, le choléra, les giardia. Alors, c'est quand même assez varié comme potentiel.
OK. Et ça survit combien de temps? Là, je m'adresse peut-être aux gens qui s'inquiètent. Quand je vais revenir, je suis sujet combien de temps à attraper la diarrhée du voyageur?
En fait, on peut avoir des symptômes jusqu'à 2 semaines après le retour en général et on peut le transmettre tant qu'on a des symptômes, donc tant qu'on a encore des malaises et qu'on a potentiellement encore des bactéries en soi, on peut continuer à le transmettre.
Mais ça
peut durer très longtemps.
Ben
il y a des gens qui restent avec des diarrhées chroniques pendant des semaines et même des mois. Évidemment, ils ne vont pas être contagieux pendant toute cette période-là. À un moment donné, leur corps va éliminer les bactéries, mais il peut rester un côlon irritable qui est causé par l'inflammation secondaire à l'infection initiale qui est due à la diarrhée du voyageur.
Donc, j'imagine que les gastro-entérologues sont extrêmement sensibilisés aussi à cette maladie-là parce que ça a un réel impact sur la santé digestive là, à long terme?
Oui, mais plus particulièrement les médecins dans les cliniques de sans rendez-vous et les urgences, parce que les patients qui reviennent très symptomatiques, très malades, n'ont pas le temps d'avoir un rendez-vous en gastro-entérologie. Ils vont aller à l'urgence parce que c'est trop long d'avoir un rendez-vous pour être traités rapidement, parce que parfois, ils peuvent complètement se déshydrater. Les jeunes enfants particulièrement, les gens qui ont des maladies préexistantes, le diabète, des maladies cardiaques, ceux qui ont déjà une maladie intestinale, comme une maladie de Crohn, une colite ulcéreuse, vont avoir beaucoup plus de complications en lien avec cette infection-là et donc vont plus souvent se retrouver hospitalisés même ou à tout le moins à l'urgence s'ils n'ont pas prévenu avant de partir, ce qui est possible quand même.
Et les personnes âgées aussi, évidemment.
Oui, bien sûr.
Oui. Il y avait un sondage qui a été effectué et qui révélait que la majorité des Canadiens, on parle ici de 79 % n'étaient pas bien préparés à voyager et à prévenir donc la diarrhée du voyageur. Comment je m'adresse à ces gens-là là, qui se préparent à partir dans les prochaines semaines? Comment on se prépare pour éviter d'attraper cette maladie-là?
Premièrement, on va consulter avant de partir. Il n'y a pas que la diarrhée du voyageur qu'on veut prévenir. Il y a beaucoup d'autres maladies qu'on veut mettre à jour. On veut s'assurer que notre vaccin contre le tétanos est à jour au cas où on marcherait sur un coquillage et qu'on se blesserait. Donc, on va consulter en clinique santé voyage ou à tout le moins son professionnel de la santé, son médecin de famille pour vérifier ses immunisations, les besoins de en médicaments qu'on pourrait apporter pour s'auto-traiter. Et on discute du vaccin contre la diarrhée du voyageur, qui est un vaccin oral, celui-là.
Oui.
Alors, même si on a peur des piqûres, des injections, c'est un vaccin qu'on va boire, donc il n'y a aucune piqûre qui est impliquée pour se protéger contre la diarrhée. Et on lit un peu sur quoi faire au niveau des aliments. Même, par contre, en étant très rigoureux, à cause des méthodes des restaurateurs là-bas, de la contamination croisée qui peut y arriver des aliments et tout, on estime que même si on fait attention et qu'on ne prend que de l'eau qui a bouilli ou qui est en bouteille, que des aliments qui sont cuits ou qui sont pelés, ou des choses qui ont été bouillies, comme des pâtes et tout ça, on a quand même un risque d'avoir de la diarrhée.
Et
c'est pour ça qu'on recommande le vaccin.
Le vaccin, on va y revenir à Ducoral, le vaccin en question, Dominique Tessier. Mais avant, une fois sur place, là, quand malgré toutes les précautions, on est touché par ces symptômes occasionnés par la diarrhée du voyageur, on fait quoi?
Le plus important, c'est de se réhydrater. C'est vraiment essentiel et les gens négligent beaucoup cette partie-là et c'est là que les complications vont survenir. Alors, surtout si on a des conditions médicales autres, alors on va s'assurer de prendre un grand verre d'électrolytes soit qu'on va apporter des sachets avec soi de Pédialyte, Gastrolyte, etc. On en trouve des sachets de poudre à la pharmacie qu'on peut facilement apporter avec nous, soit qu'on va préparer une solution avec un litre d'eau, le jus d'une orange pressée, une pincée de sel et une poignée de sucre, donc à peu près 7 sachets de sucre. Et on va boire cette solution-là le plus souvent possible à chaque fois qu'on a une selle très liquide. Ça, c'est la réhydratation. On traite la fièvre. On n'endure pas la fièvre. On essaie toujours de la faire baisser. Et ça arrive très souvent. Et on se repose. La plupart des gens vont passer quelques heures ou souvent quelques jours à leur chambre à se reposer parce qu'ils sont vraiment pas en forme pour aller participer aux activités autour.
Ben, c'est assez dommage quand on lit que les symptômes peuvent durer jusqu'à 7 jours. Là, quand on part une semaine dans un tout inclus, ben, c'est le voyage qui est à l'eau. Hein?
Tout à fait. Puis ça coûte cher quand même pour aller passer quelques jours dans une chambre d'hôtel sans être capable de faire des activités. D'autant plus que parfois, on va là et on a une activité qu'on veut vraiment pas manquer. Les voyages dans le sud sont de plus en plus courants, à la mode. On pourra pas remettre la cérémonie. Là. Il faut y aller.
Ouais.
Alors, elle va avoir lieu à cette heure-là, puis c'est tout. Donc, on veut essayer d'être présent et de profiter de nos vacances qu'on a durement gagnées.
Du choral, j'y reviens, ce vaccin oral que l'on peut prendre avant de partir, est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est pour toutes les clientèles, enfants, personnes âgées? Est-ce qu'il y a des effets secondaires?
À partir de 2 ans, on peut le donner. C'est un vaccin qui est très, très bien toléré. Il y a un goût assez neutre. Ça goûte un peu comme des biscuits soda, si vous voulez, en liquide.
Okay.
Ça a une vague odeur de framboise. À part le petit pétillant qui agace parfois les enfants, et on peut attendre, une fois qu'on a reconstitué le vaccin avec de l'eau, il va y avoir des petites bulles. On peut attendre que les bulles retombent complètement avant de le prendre. C'est à peu près tout ce qu'il va y avoir comme effet secondaire. C'est un vaccin vraiment facile avec une excellente tolérance. Il faut par contre l'avoir pris au moins 2 semaines avant de partir pour que ce soit efficace. Donc, il faut prévoir. Il faut s'assurer d'y avoir pensé. Et on achète rarement notre billet pour partir demain matin. On y pense à l'avance. Et quand on achète notre billet, on devrait penser à nos vaccins, à notre carnet de santé, à notre passeport et tout ça. Et donc, à ce moment-là, c'est le bon temps pour prendre le vaccin. Le vaccin doit se prendre sur un estomac vide, par contre.
Donc,
il faut organiser dans la journée pour être certain de prendre au moins 1 heure avant de manger ou 2 heures après avoir mangé, si c'est en fin de journée.
Et on peut l'obtenir au sein des cliniques de santé voyage,
peu
partout au Québec?
Oui, au Québec, on ne peut pas acheter directement en pharmacie des vaccins. Donc, il faut consulter un médecin, une infirmière pour obtenir ce vaccin-là.
OK. Dominique Tessier, merci beaucoup. Si vous préparez un voyage, je vous souhaite un bon voyage en santé.
Merci.
Et puis, ça sera un plaisir de vous reparler, là, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres maladies là, qui nous pendent au bout du nez quand on voyage un peu partout dans le monde.
Malheureusement, oui. Il faut bien s'informer avant de partir parce que il y a de plus en plus de choses. Il n'y a pas que l'Ebola, là. Il y a la malaria, la chikungunya, il y a plein de choses. Donc, c'est important de consulter un professionnel.
Merci beaucoup. Au plaisir.
Au revoir.
Merci, Rémi, à la mise en onde. C'était une excellente semaine. Merci de nous y avoir accompagnés. On se retrouve lundi. Portez-vous bien. Bye-bye.